J'ai donc dit que je jouais la variable d'ajustement temporel pour rester à peu près dans les temps, donc je vais être relativement bref, hein. De manière à ce qu'il puisse y avoir quand même quelques questions d'ici 10h20, 10h25. Hein. Donc je vais prendre, en fait, je vais dire trois petites choses, simplement. La première chose, c'est que ce colloque évolue. Évidemment, c'est un colloque. Il y a même eu des organisateurs qui ont fait en sorte qu'il y ait une sorte de montée en puissance. Et, enfin, j'espère en tout cas. Et finalement, il y a eu un moment clé hier. Un moment clé, c'est hier matin, 11h51, je l'ai noté. Julie de Ramond dit pour la première fois dans ce colloque, en fait, ce qui importe, c'est le rapport à soi. C'est le je. Et le je, là, on a entendu parler, Emmanuel en a parlé. Nathalie en a parlé, et c'est vraiment ce qui importe. Alors là où c'était un petit peu amusant, enfin en tout cas moi j'ai trouvé ça amusant, Julie en disant le rapport à soi c'est ce qui importe dans la question du rapport affectif au lieu, ça a mis à mal un certain nombre de choses. Ça ne veut pas du tout dire que ce qui a été dit au préalable était sans intérêt, loin de là, ça a permis de préparer, mais on tournait autour du pot finalement. Du sensible, du sensoriel, des données, de la réalité virtuelle, etc. Puis petit à petit, tiens, il y a le selfie qui apparaît. Le selfie, c'est bien le rapport à soi. Et le petit moment amusant, 2 secondes après que Julie ait dit, c'est le rapport à soi qui importe, c'est le jeu qui importe, Nicole a dit, je vais me dévoiler. Et elle a raconté l'histoire du tigre et de la foudre qui tombait chez elle et de son petit jouet qui avait été lacéré par le tigre. Je me suis permis, Nicole, tu m'excuseras. Et comme si ça avait libéré quelque chose. Donc je voulais dire par là, illustrer par là, en utilisant les propos qui ont été donnés hier, que c'est ce jeu est finalement, à mon sens en tout cas, central dans ce que l'on peut dire du rapport affectif à la ville, du rapport affectif au lieu. Et donc j'ai... Voilà. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je fais un petit détour, bien que non philosophe, je vais faire un petit détour par un auteur, un philosophe, hein, et après on verra rapidement comment cela peut s'appliquer dans les choix de localisation du logement, et que je qualifie de aux limites de la rationalité et des affects. J'en suis à me demander si finalement il n'y aurait pas en plus quelque chose entre la raison et la passion, entre la rationalité et les affects, très classique, hein, je vais pas revenir dessus, comme s'il y avait quelque chose de plus, le mélange de cela, qui permet peut-être de mieux de clarifier un petit peu la relation qu'on peut avoir avec l'espace. Alors j'ai tout changé donc ma présentation, c'est pour ça que je passe directement à la diapo, je ne sais combien. Et le philosophe en question, c'est Jean-Paul Sartre. Hein, et je vais vous, enfin, il nous parle d'un garçon de café. D'un garçon de café. Alors, il écrit, hein, c'est dans le chapitre La mauvaise foi, je vais parler de mauvaise foi, dans L'être et le néant. Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif. Il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Enfin, le voilà qui revient en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible d'on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule. Bon, vous ôtez les effets de littérature, et bien évidemment, vous ôtez aussi les effets de période. Là, on est d'époque, pardon. On est à Paris dans les années 50. C'est un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais c'est vrai sur d'autres choses. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s'applique à enchaîner ses mouvements comme s'ils étaient des mécanismes se commandant les uns les autres. Sa mimique et sa voix même semblent des mécanismes. Il se donne la prestesse et la rapidité impitoyable des choses. Il joue, il s'amuse. Mais à quoi donc joue-t-il? Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte. Il joue à être garçon de café. Et Sartre pose la question, mais pourquoi joue-t-il au garçon de café? Plus exactement, même si je vais très rapidement là, pourquoi se sent-il obligé de jouer au garçon de café? Auprès de qui joue-t-il? À qui veut-il donner cette impression qu'il est effectivement garçon de café. Et c'est là où ça pose problème, parce que c'est complètement irrationnel, et en même temps, il y a une logique extrêmement forte derrière cela. Sartre part de l'idée qu'il croit deux choses contradictoires en même temps. Essayez de penser à deux idées contradictoires en même temps et d'y croire, véritablement d'y croire. Alors, je vais donner quand même... Voilà, les deux idées, c'est il est sûr, j'ai mis des guillemets quand même, je pourrais éventuellement expliquer pourquoi après, il est sûr d'être garçon de café et il n'est pas sûr d'être garçon de café. Alors quand je dis mauvaise foi, petite précaution quand même, il ne s'agit pas de la mauvaise foi au sens classique du terme, hein. Ça n'intéresse pas Sartre, ça. Mauvaise foi, le mensonge, bon, très bien. La mauvaise foi sartrienne, c'est la mauvaise foi en toute bonne foi. C'est la mauvaise foi qui s'applique, à soi-même. Donc, en l'occurrence, le garçon de café est sûr d'être garçon de café. La preuve, il est garçon de café. Il n'est pas sûr d'être garçon de café. C'est pour cela qu'il se sent obligé. Et le fait qu'il se sente obligé est finalement l'indice, je ne vais pas dire la preuve là, l'indice qu'il n'en est pas tout à fait sûr. Donc, n'étant pas sûr, il joue. C'est-à-dire il joue au garçon de café de manière à s'assurer lui-même qu'il est bien garçon de café, ce dont par ailleurs il est parfaitement sûr, il a un bulletin de salaire qui le montre. C'est un garçon de café normal, hein, je vous préviens, c'est moi le garçon de café, c'est vous, c'est Philippe Bachimon, c'est... Pardon. Et les autres. Donc il joue au garçon de café. Ce faisant, en jouant au garçon de café, il renforce... le fait d'être sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'il joue au garçon de café. Mais, en même temps, en jouant au garçon de café, si d'un côté il renforce le fait d'être sûr, il accumule les preuves du fait qu'il est bien garçon de café, eh bien, en même temps, il renforce son incertitude parce que pour devoir jouer le garçon de café, c'est bien la preuve, l'indice de plus en plus fort qu'il n'est pas sûr d'être garçon de café. Donc il y a une dynamique qui se met en place où finalement il y a une cause commune à deux processus complètement contradictoires. Le fait de jouer au garçon de café l'amène de plus en plus à être sûr qu'il l'est et de plus en plus à être pas tout à fait sûr qu'il l'est et à en douter franchement. C'est complètement insupportable. Prenons un autre exemple. Bien. Mais ça marche ça marche tout le temps. Sartre dit finalement, c'est peut-être le fait même du comportement humain en société, mais surtout en société miroir, c'est-à-dire vis-à-vis de soi-même. Et il va jusqu'à dire, à la dernière phrase, je crois, de ce chapitre, c'est « Qu'y a-t-il de plus de mauvaise foi que la sincérité ?» Écoutez quelqu'un qui commence par dire « En toute sincérité, je ». C'est pas vous qui le convainc de sa sincérité, c'est lui-même. Bien. Alors, à partir de là, je reviens en arrière. Le lieu de logement et les affects, bon, il y a des tas d'indices comme quoi le lieu de logement n'est pas la résultante d'une rationalité économique basique, même si les modèles économiques fonctionnent bien à un certain niveau de généralisation, à une certaine focale spatiale. Mais il y a le coup de cœur. Vous écoutez les gens qui ont acheté un logement. Toujours ce coup de cœur. J'ai noté la fourchette de prix. En fait, il se fixe une fourchette de prix et puis systématiquement, il la dépasse. Ce qui est déjà pas tout à fait d'une rationalité, en tout cas d'une cohérence, une cohérence temporelle dans la rationalité. Je passe sur ces éléments-là. Alors, une petite enquête avec des résultats qui ont été appuyés, confortés par d'autres enquêtes avec des entretiens longs. Un recueil de vie spatialisé, c'est-à-dire racontez-moi votre vie, mais en insistant sur les éléments spatiaux, votre parcours spatial, en plus d'être temporel, personnel, familial, social, sur un petit échantillon qui a été traité de façon systématique, où on posait des questions, non pas tellement pour savoir pourquoi, non pas pour avoir une narration, mais plutôt pour avoir des moments spatiaux, en posant la question où, ou bien qu'est-ce que vous aviez fait quand vous étiez là, mais surtout pas pourquoi. Vous faisiez cela, des relances minimales, et avec une posture que je qualifie de pragmatique, qui empêche, qui n'autorise pas en fait l'analyste à se poser la question de la vérité de ce qui est dit. On s'en moque complètement, on s'en moque complètement, mais plutôt de savoir pourquoi la personne s'est sentie obligée de dire cela à tel moment. Ça peut être en référence à la situation d'enquête, la référence à ce qui a été dit avant, ce qui va être dit après, mais qui n'est pas tout à fait formulé, en référence à l'image que la personne se donne d'elle-même. Je m'autorise à dire ça ou je ne m'autorise pas à le dire. Donc posture pragmatique. Et dans les discours qui ont été recueillis, donc des entretiens relativement longs, en moyenne, on va dire 2 heures, 2 heures et quart, des entretiens qui ont été faits aussi par d'autres. Par exemple, je sais que Benoît a fait un entretien qui a duré, je crois, 3 heures et 3 minutes, ce qui est extrêmement long, mais qui permet de décrypter un certain nombre de choses. Dans le premier temps, une évaluation positive de la localisation dans le périurbain. Je focalise sur le périurbain. Et avantages de la ville. Alors l'argument, il est simple. Nous avons dans le périurbain les avantages de la ville sans en avoir les inconvénients, pollution, bruit, embouteillage, etc. Ce qui est sans doute pas tout à fait vrai. Les avantages de la campagne sans en avoir les inconvénients et avec une conclusion implicite qui a même été explicite, qui m'a été adressée assez directement. Il faut vraiment être idiot pour habiter ailleurs. Bien. Et dans un deuxième temps, c'est-à-dire à l'avancée, dans l'avancée de l'entretien, eh bien, on s'aperçoit finalement que la personne montre qu'elle aurait bien aimé habiter en ville, mais que malgré tout, il faut des moyens. Ce n'est pas forcément possible pour chacun d'entre nous. Et puis même des gens aussi qui me disent, bah non, j'habite le périurbain, mais finalement, j'aurais bien aimé habiter le vrai monde rural parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc des gens, finalement, qui étaient localisés ici en disant, c'est super, faut être idiot d'être ailleurs, mais finalement, qui eux-mêmes se traitaient d'idiots au bout d'un certain nombre de minutes, enfin de quart d'heure, d'entretien. Première analyse qu'on peut en faire, c'est, il est plus facile de dire, le périurbain, c'est bien. J'y suis, d'ailleurs je suis quelqu'un de bien, il est cohérent que je sois, moi, quelqu'un de bien dans un espace qui est bien. Valorisation de soi, ça fonctionne très très bien. C'est beaucoup plus difficile de dire, même si c'est ce que j'ai pu décrypter par la suite, finalement, malheureusement, je ne suis que le jouet de contraintes économiques et pratiques, coût du logement, je l'ai évoqué, gestion de la distance des différentes activités du foyer qui font qu'on ne peut pas habiter à la campagne. Dévalorisation de soi. Perte du sentiment de liberté qui a été rappelé par Nathalie et qui est extrêmement fort. Dès qu'on se sent dépossédé de ce sentiment de liberté, les émotions sont négatives, le rapport affectif va dans le très très négatif parfois. Et donc, j'en arrive à là. La personne est sûre et en même temps pas sûre d'avoir raison d'habiter dans le périurbain, et en l'affirmant de façon assez intense lors de l'entretien, mais cet entretien le fait évoluer, eh bien, il renforce la tension qui est assez difficile entre dire quelque chose et y croire, dire autre chose et y croire parce que c'est vrai aussi, et en même temps gérer la relation entre ces deux croyances contradictoires. Sachant qu'il y a peut-être une petite nuance à apporter, on a tendance à penser que les croyances, c'est oui ou non, je crois au Père Noël, je ne crois pas au Père Noël. Et en fait, il y a une gradation là-dedans qui permet de réduire un petit peu cette tension. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'entre émotion et raison, il y a des choses bizarres. Mon niveau d'analyse s'arrête là. Il y a des choses bizarres qui interviennent et qui ont été traitées par Sartre dans le domaine non spatial. Mais qui fait l'objet de toute la réflexion de l'école de philosophie analytique de l'action américaine, avec notamment Davidson, depuis un certain temps quand même, et réinterprété par les Français qui analysent ce que disent les Américains de ce que dit Sartre, avec notamment. Joie Nicole, avec notamment Pascal Angèle, mais aussi d'autres, John Elster que j'ai cité il y a 2, 3 jours, bon, lui qui n'est pas français, et surtout Jean-Pierre Dupuis pour vous donner quelques petites références extrêmement intéressantes. On apprend beaucoup de choses sur les gens, sur l'espace, le rapport à l'espace, et énormément de choses sur soi-même. Merci. Bien. Poser des questions, c'est le moment. Je vais demander à mes collègues de bien vouloir revenir. Et on se donne pas énormément de temps, on va dire, je regarde Georges-Henri, un petit quart d'heure. Ouais, bon, ça veut dire 10 minutes. Allez-y, qui se lance? Ah.
Tu es obligé alors.
Non, pas d'obligation, si. Olivier.
Ah.
Sur la dernière intervention, sur ton intervention, poser la question là sur ces contradictions là qu'on peut noter, ça me fait penser aux travaux de Lorenza Gonzaga, qui dit que justement l'émergence de la pertinence du concept vient du moment où il est mobilisé dans l'entretien. C'est une émergence interactionnelle des catégories de classement. Est-ce que on pourrait, ou est-ce que c'est pertinent de le poser comme ça, c'est-à-dire en fonction de la situation d'entretien et des concepts, des catégories qui sont suggérées par la situation d'entretien, les notions sont mobilisées par la personne interviewée ou pas. Et c'est vraiment en fonction de l'interaction d'entretien. Ce qui amènerait à dire que ce n'est pas forcément des contradictions, mais c'est plutôt des opportunités de se saisir d'un concept en fonction de la situation, quand même, situation très précisément. Alors, je ne sais pas si c'est clair.
Oui, sans doute. Ce sont des choses qui sont mobilisées effectivement dans la situation d'entretien. Là, je ne parle pas tellement du rapport affectif. En fait, je ne parle pas tellement du rapport affectif au lieu que de l'expression du rapport affectif au lieu dans un contexte d'entretien. Et je ne parlerai pas de construction ou de mobilisation de la notion ou du contenu concret pour la personne de ce qu'il met sous cette notion. Je parlerai plutôt de construction dans la relation, pas dans l'interaction. Parce que quand tu parles d'interaction, quand tu renvoies à l'interactionnisme, en fait, tu es toujours dans l'un et l'autre, et l'un et l'autre des deux personnes, ou plus, qui interagissent. Moi, je suggérerais plutôt une référence à la sociologie relationnelle, évidemment. Sociologie relationnelle, donc c'est pas forcément un courant très connu, il est porté essentiellement par Simon Laflamme, sociologue en Ontario, et Claude Vautier à Toulouse, qui montre finalement que c'est la relation qui prime sur les individus qui permettent cette relation, tandis que l'interactionnisme les met un petit peu à égalité quand même. Il y a l'interaction qui dépend des individus. Là, c'est plutôt dans la relation qui met au second plan les individus qui forment, qui permettent cette relation. Oui, c'est un construit situé en tout cas. Et un autre entretien à un autre moment aurait sans doute, avec d'autres personnes, aurait sans doute donné des choses légèrement différentes. Mais ce que je voulais dire, même si l'échantillon du périurbain était relativement petit, puisque c'était une sous-population d'une population plus large, le propos qui consiste à dire bah oui, je suis là, mais finalement j'aurais aimé être ailleurs, était de l'ordre du quasi systématique. Voilà. Mais on ne peut pas faire de statistiques là-dessus. Ouais.
Pour faire écho à ce que vous disiez, moi, il me semble effectivement que c'est intéressant de ne pas bâtir l'émotion en opposition à la raison. Enfin, c'est intéressant. D'autant que, effectivement, l'émotion peut se bâtir comme conséquence ou effet secondaire de comportements raisonnables ou de recherches raisonnables d'adéquation à la réalité, et que tout ça se situe dans une dimension qui est temporelle. Moi, il me semble que ce temps, il est important à intégrer aux choses. Et c'est vrai que c'est une chose que moi, j'ai peut-être... qu'on n'a pas peut-être abordé suffisamment. Il me semble que l'émotion, elle est à décliner différemment dans le temps, sur des échelles qui peuvent être extrêmement variées.
Oui, c'est bon, j'entends là. Alors la question du temps, c'est complexe, mais en tout cas ça me paraît une dimension essentielle. Par rapport à la question d'interaction, je pense que c'est évidemment, les choses se prêtent bien dans un entretien à cette forme de rationalisation de la pensée, en règle générale, mais les psychologues nous disent aussi qu'on a des positions morales qui sont souvent une forme de rationalisation. En fin de compte, il peut y avoir une interaction, mais je pense qu'on peut très bien fonctionner tout seul. Parce qu'il y a une forme de... Bon, ça fait très, très, très appel à ce qu'on appelle la dissonance cognitive, des formes de contradiction. Et ça, on peut très bien le créer soi-même. On n'a pas besoin d'interaction. Il y a beaucoup de séquences de ce type-là. Donc, il y a de l'interaction, c'est vrai, ça peut être créé en situation, mais peut-être que dans ce cas-là, c'est vraiment très, très ancré chez Mandeline.
Je passe la parole, mais juste auparavant, effectivement, là, l'affirmation contradictoire de la personne s'est révélée dans l'entretien. Quand le garçon de café joue au garçon de café, il est peut-être un petit peu en interaction avec les autres, mais surtout en interaction avec lui-même. C'est lui qu'il cherche à convaincre.
Oui, sinon, pour revenir un peu sur cette question du temps, dans les processus cognitifs, effectivement, il y a toute une question du temps qui est forte et qui fait que l'émotion va ressurgir de façon différente, va se construire. Et finalement, le processus cognitif peut mener à lisser certains types d'émotions. Voilà. Et je pense qu'on a là une grille de lecture qui peut être tout à fait intéressante pour comprendre une palette d'émotions et dans quelle mesure, à un moment donné, elle peut ressurgir sur le vécu d'un lieu, sur l'usage d'un lieu. Donc je pense que c'est quelque chose qui mérite en tout cas de plus amples investigations.
Michel, oui. Une question que je pose en même temps à Nathalie, à Denis. Je rapproche évidemment les contradictions de Denis avec ce que tu dis, Nathalie. Cohérence des émotions, incohérence de la vie organisée. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous suggérer, tous les deux indirectement, que le rapport affectif à l'espace s'intensifie quand... l'expérience du lieu nous met devant certaines contradictions des choix.
Oui. Oui, monsieur. Je pense que on va arriver, même si c'est pas rigolo, on va arriver à des questions de définition, il faudra bien y passer. Et j'aurais tendance à définir le rapport affectif au lieu comme le rapport affectif qui a pour enjeu le soi qui te déstabilise. Donc tu as des situations qui effectivement vont renforcer la dynamique ou la situation émotionnelle justement parce que tu te sens en tout cas en danger, très léger parfois, généralement très, très léger, mais où finalement ta personne est finalement re-questionnée, ce qui te questionne toi aussi.
Ouais. Je peux continuer. Je pense qu'il y a un jeu qui se joue à différentes échelles aussi. Où ce qu'on peut penser comme cohérent, comme parfaitement organisé, est complètement désorganisé à d'autres échelles, et notamment l'échelle de nos émotions, et des émotions individuelles. Et du coup, il est très délicat de se dire, là je suis plutôt sur un lieu qui a telle dimension émotionnelle ou autre, parce que ça va dépendre du vécu, ça va dépendre justement des mécanismes cognitifs de chacun, de l'appropriation qu'on se fait des lieux, et du coup ça recrée une forme de cohérence, mais à d'autres échelles. Et là-dessus, on a quand même peu d'informations et on est peu allé regarder ce qui se passe. Voilà.
Alors, je vois le temps malheureusement aussi. Il y aura une intervention très rapide de Patrick et une intervention très très rapide de Nicole.
très rapidement, parce qu'après, je vais justement avoir le creux que d'autres vont le développer dans la présentation. Peut-être qu'il y a peut-être une aporie de l'émotion, qu'effectivement, la solution temporelle qui a été soulignée est fondamentale. Je crois qu'on a peut-être à veiller, pour y voir plus clair, à se repositionner notamment sur le travail théorique qu'a fait Damasio par rapport à ça. C'est de se rendre compte que l'émotion est acognitive et véritablement, et le partage d'émotions, il est vraiment dans le corps et dans l'explosion du corps, mais il est asémantique, et qu'après vient le sentiment, qu'il y a l'émotion et qu'ensuite après il y a le sentiment, comme par exemple le coup de foudre et le sentiment amoureux dans la langue grecque, pour prendre un exemple banal, hein. Mais cette expansion qui là devient discursive, qui devient autre chose, est là qu'on peut suivre nous en tant que chercheurs dans le développement discursif des personnes. L'émotion, non, l'émotion c'est impartageable. Ben, oui, partageable, très fort, mais dans l'hystérie.
Nicole.
Juste, je vais résumer ce que je pense en disant qu'en fait, on est en train de faire une dialectique entre le jeu du scientifique et le jeu de l'habitant. C'est-à-dire, on est dans un double jeu, et justement. Ce qui nous manque, finalement, c'est de sortir de notre jeu disciplinaire pour aller vers un jeu qui éventuellement nous rassemblerait, mais pourquoi pour aussi aller vers le jeu de l'habitant, c'est-à-dire nous sommes tous des garçons de café, mais les habitants sont également tous des garçons de café, et donc il y a une... Alors, disons que faire très attention aux mots, à nos mots, comment on dit espace, comment on dit lieu, comment on dit, etc. Pourquoi on revient à ville, pourquoi ville, est-ce que ville est un mot qui peut parler des lieux, etc. Tout ça, c'est à remettre en question si on veut vraiment reprendre ce double jeu interne-externe. Voilà, c'est tout. Et puis les méthodes. J'ai été frappé par les méthodes, je suis frappé. Parce que nous abordons quand même dans la différence, complètement dans la différence. Comment sortir des méthodes traditionnelles de l'économie, tout en y retournant quand même un peu. Et puis comment sortir de nos méthodes indéfinies que Denis montre, si Denis montre finalement quelque chose qui, à la fois, il y a des noyaux durs et puis en même temps, il y a des choses qui sont imprécises, etc. Comment on peut il n'y a pas seulement les mots, il y a aussi les méthodes.
Oui. Alors, il y a la table ronde méthodo cet après-midi, je crois. Et simplement pour vous dire que si vous relisez l'argumentaire du colloque, il y a la question de saisir le rapport affectif au lieu, et il y a ce saisir du rapport affectif au lieu qui permet ce double jeu sur le jeu, entre l'habitant et entre l'individu et le scientifique, et entre le scientifique et celui qui va agir, architecte, urbaniste, etc. Je propose une micro-pause de... Allez, 5 minutes. Le temps aux deux prochains orateurs de...